OK, alors bienvenue à tous. C'est toujours avec joie qu'on se présente ici pour que le Seigneur puisse parler, c'est qu'à nos cœurs. Alors, c'est qu'il lui demandait de disposer de chacun de nous. Oui, notre Dieu et Père, c'est toujours avec une grande joie, mais avec crainte aussi que nous voulons ouvrir les saintes pages du livre pour apprendre ce que tu as pour nous, pour vraiment écouter avec sérieux et avoir ce désir immense de vouloir te plaire. Alors, dispose de chacun de nous, Dieu, à bien recevoir ce que tu as pour nous. Amen. OK, alors, vous avez sûrement déjà entendu des commentaires concernant la vie chrétienne qui disaient quelque chose comme « Il me semble qu'au début, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, il me semble que j'étais plus zélé qu'aujourd'hui. » Puis peut-être même que vous vous l'êtes déjà dit à vous autres aussi. Alors, pour certains, ça peut faire au-delà d'une quarantaine d'années que vous avez fait ce pas-là, c'est-à-dire que vous avez invité le Seigneur à être votre sauveur et votre Seigneur. Puis, avec les années, bien là, on peut avoir tendance à blâmer l'âge. Dans le sens que, ah, bien, il y a, mettons, 40 ans, il y a 50 ans, bien, j'étais plus jeune d'abord. J'avais plus d'énergie, j'avais plus d'endurance. Aussitôt que je savais qu'il y avait une conférence, ça avait beau être au bout du monde, je m'arrangeais pour être là. Alors, c'est des choses qu'on peut avoir tendance à mépenser, mais si on veut vraiment être honnête, là, on en met pas mal sur le dos de l'âge. Comme quoi que on voudrait que ce soit une explication à notre diminution quant aux ailes. C'est sûr qu'avec les années, ça peut être vrai que la santé a pu être altérée, que l'endurance a diminué aussi. Je pense que c'est normal. Quand on a 80, c'est pas comme quand on en avait 30. C'est bien évident. Mais est-ce que c'est la véritable raison de notre baisse d'intérêt pour les choses concernant Dieu? Puis ça, c'est une question que j'aimerais qu'on se pose, chacun de nous, là, ce matin. Là. Est-ce que c'est un argument qui est valable pour expliquer qu'après tant d'années, il me semble que je suis moins pépé que j'étais au début de ma vie chrétienne? Dans Apocalypse 2, 4, le Seigneur fait des reproches à l'Église que d'Éphèse. Puis en passant, l'Église que d'Éphèse, ça faisait une quarantaine d'années qu'elle avait pris place, tu sais, que ça avait pris place. Là. Alors, l'Église d'Éphèse avait été persévérante. Elle avait souffert pour le nom de Jésus. Elle s'était point lassée. Elle avait toujours été poussée par le bon motif, c'est-à-dire le nom et la réputation du Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré tout, ce que le Seigneur lui reproche, c'est « t'as abandonné ton premier amour ». C'est dur à saisir, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour en arriver là? Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Est-ce que notre passion pour Christ est devenue, je dirais, une ligne de conduite froide et routinière? Est-ce que la vie chrétienne s'est rendue une routine? Ou encore, est-ce que mon christianisme est devenu une religion? Hi! Le christianisme, une religion, bien, il faut être prudent parce que ça peut le devenir. On peut, dimanche après dimanche, se présenter ici, s'asseoir sur les chaises, puis faire exactement comme on faisait lorsqu'on était dans notre ancienne religion. On est là, puis c'est comme si on n'allume plus. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est votre cas, mais j'aimerais juste qu'on réfléchisse à ça. On a peut-être ouvert une porte qui a contribué à, je dirais, diminuer ou discréditer certains principes bibliques, ce qui a fait en sorte que ça a peut-être été le début de mon manque de zèle concernant le Seigneur. Alors, ce matin, on va regarder ensemble le danger, je vais te laisser écrire ça, le danger des compromis. Le danger des compromis. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un compromis? Bien, un compromis, c'est un accord obtenu par des concessions. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une concession? Une concession, c'est, attendez un petit peu là, c'est l'abandon d'un avantage, d'un droit ou d'une prétention. Mais ça implique toujours l'abandon de quelque chose. Alors, retenez ça. Une concession, ça implique l'abandon de quelque chose. OK, alors dans Acte 9, on voit l'histoire où Paul voyageait pour aller persécuter des méchrétiens. Acte 9, c'est ça, c'est la conversion de Paul. Mais avant d'arriver à Damas, le lieu où ce qui s'en allait, Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin de Damas, Paul a rencontré Christ. Il a vu le Christ dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Il a même expliqué au roi Agrippa, dans Acte 26, 13, qu'il avait vu une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alors, imaginez-vous quelqu'un que vous voyez, puis son éclat surpasse celle du soleil. Vous savez, le soleil, quand il est à son zénith, puis qu'il n'y a aucun nuage, vous ne pouvez pas regarder ça, là. Bon, bien, Paul, il dit que sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, l'éclat que le Seigneur avait, ça surpassait l'éclat du soleil. À ce moment précis-là, Paul a réalisé une chose, que tout ce qui avait eu de la valeur pour lui auparavant, ça ne l'avait plus. Puis regardez ce qu'on lit dans Philippiens, chapitre 3, verset 7. Si vous ouvrez ça, c'est qu'allez voir ça dans Maguevo Bible que ça vaut à peine. Philippiens 3, verset 7. Paul, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors Paul dit, toutes ces choses, mais quelles choses? Mais les choses qu'on voit un petit peu plus haut, c'est qu'au verset 4, là, entre autres, là, Philippiens 3, verset 4, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il n'y a personne qui pouvait reprocher Paul d'avoir manqué à certaines choses que la loi mettait de l'avant. Alors, pour lui, Paul, ça, c'était tout un bagage là, qui valait de quoi. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ces choses-là, tout son trésor religieux, c'est-à-dire qu'entre autres, il dit « Moi, circoncis le huitième jour », Paul s'est fait circoncire exactement le jour que la loi disait. Le huitième jour, c'était cette journée-là qu'il fallait que ça se fasse. Il disait aussi qu'il venait de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est la seule tribu, avec la tribu de Juda, qui sont demeurées fidèles à la royauté du roi David. C'est la seule. Les 10 autres se sont séparés pour former avec Roboam ou Jéroboam, attendez un petit peu. avec Jéroboam les 10 tribus du Nord. Puis en passant dans les 10 tribus du Nord, il y a eu sur une période de 200, je ne veux pas vous induire en erreur, sur une période de 210 ans, il y a eu 19 souverains qui sont passés là. Et il n'y en a pas un, mais pas un seul qui a fait ce qui plaisait à Dieu. C'est plutôt écrit, ils ont tout fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais Paul, lui, venait d'une autre tribu, de la tribu de Benjamin, qui est demeurée fidèle, puis qui ont créé la tribu de Juda. Dans cette lignée-là, il y a au moins eu 8 rois sur 20 qui ont été bons. Fait que Paul, il peut peut-être dire, bien, au moins nous autres, il y en a quelques-uns qui étaient bons. T'sais. Alors, dans l'esprit de Paul, après sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, ses gains sont devenus des pertes. Tout ce qu'il considérait comme ayant de la valeur, là maintenant, après la rencontre avec Christ, c'est devenu des pertes. À un point tel qu'il les a considérés comme de la boue. C'est écrit, je les regarde comme de la boue, mais le mot grec veut plutôt dire du fumier ou des excréments, ou excusez-moi le terme, de la marde. Alors tout ce qui valait avant, maintenant ça vaut plus juste de la marde. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup là? Alors pourquoi soudainement ce qui était des gains où des bénéfices sont devenus des pertes. Parce que Paul a réalisé que tout ça ne pouvait pas produire ce qu'il espérait en lui, c'est-à-dire la justice, le pouvoir. Dans l'Épître aux Romains, Paul il dit « J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. » Alors même en étant respectueux de la loi, il était conscient que « Je suis juste pas capable. » Il a aussi considéré le fait qu'il n'y avait pas d'endurance pour marcher finalement, fidèlement pour le Seigneur, parce qu'il a fini par abandonner tout ça, puis il s'est converti lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Alors, ces soi-disant gains n'avaient pas non plus le pouvoir de le conduire à la vie éternelle et à la gloire. Donc, Paul a abandonné ses remarquables performances en tant que juif religieux pour acquérir la connaissance profonde du Seigneur Jésus-Christ. Il a changé de trésor. Sa religion pour le trésor de la connaissance de la relation avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit au verset 8. « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » C'est l'essence même du salut, ça. L'échange d'une chose sans valeur pour une chose inestimable. J'ai échangé ce qui valait absolument rien pour quelque chose qui n'a pas de prix. Et incalculable. Le salut, c'est ça. Celui qui s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi le terme, a échangé de la merde pour accepter le roi des rois. Puis je ne veux pas faire une comparaison, là, mais l'échange qui a pris place, ça ressemblait à ça. J'échange rien pour obtenir tout. Le salut, c'est ça. C'est exactement ça. Jésus, dans ses enseignements, avait aussi bien illustré cet échange-là. Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le Seigneur, un jour, avait déjà parlé de la parabole du trésor caché puis celle de la perle de grand prix. Matthieu 13, 44. Jésus il dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Alors, on voit ici que ces deux hommes-là ont trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux que ce qu'ils possédaient déjà. Alors, pour eux, le choix était quand même clair. Vendre tout ce qu'ils ont pour obtenir quelque chose qui a une valeur réelle, une véritable valeur. Puis, comme je vous disais tantôt, la même chose s'est produite pour ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui était auparavant caché à leurs yeux, est devenu tellement précieux qu'ils sont prêts à abandonner tout ce qu'ils possèdent pour l'acquérir. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui vaut quelque chose. Là vous allez dire, ouais, mais tu sais, je ne trouve même pas plâcher ma job, je ne trouve même pas plâcher ma famille, mes enfants, c'est pas ça que je dis. Il dit, comparativement, lorsque vous acceptez Jésus, il n'y a plus rien qui accote ça. Vous avez la certitude de votre salut. Vous avez, en connaissez-vous bien du monde qui sont convaincus de ce qu'ils vont aller après la mort? En connaissez-vous beaucoup? Parlez avec la majorité des gens dans votre famille. S'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, on ira bien où c'est qu'on va aller. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je m'en vais dans la terre, puis ça vient de mourir drette là. Aucune espèce d'espérance. Alors que le chrétien, lui, sait où il va, et ce qui est encore mieux, il sait pourquoi il y va. Si Jésus-Christ est devenu votre trésor et votre perle de grand prix, bien, vous êtes d'accord avec tout ce que Dieu demande, peu importe le prix. Vous êtes d'accord avec les principes que le Seigneur a mis de l'avant un jour lorsqu'il a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, il y a trois choses. Hein? Je répète ça souvent, moi, ce passage-là, Luc 9, 23. Si quelqu'un veut me suivre, ben, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, quand notre péché a été confronté à la gloire du Seigneur, qu'on est passé de nos ténèbres à son admirable lumière, que Dieu a retiré le voile qu'il y avait devant nos yeux, mais là, on considère que tout ce qui nous était précieux ne vaut plus la peine d'être gardé si ça implique de perdre le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu ne veux plus le perdre. Hein, moi là? Tu ne veux plus le perdre.
Non.
Tu ne veux plus le perdre. Matthieu 10, 39. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà souligné cette vérité-là aussi. Matthieu 10, 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Tu veux conserver des choses qui n'ont pas de valeur? Ben c'est bon. Conserve-les, mais ça ne vaut rien. Puis si tu conserves ça, tu vas tout perdre. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est un échange. J'échange ce qui vaut rien pour quelque chose qui vaut un prix inestimable. Vous vous souvenez, Paul avait déjà dit dans Philippiens 1, 21, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Alors, pour lui, mourir, c'était un gain. C'était pas une perte. Pour lui, la mort, c'était un gain. Ça le soulagerait des soucis terrestres. Ça lui permettrait d'avoir pour seul centre d'intérêt son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi rajouté, quand il parlait de Galates, dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Perdre pour gagner. C'est un petit peu comme un pléonasme, là. Perdre pour gagner. Tout est devenu sans valeur à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à un moment donné dans la vie d'un croyant, il a découvert que le Seigneur avait plus de valeur que quoi que ce soit qu'il pouvait avoir. Plus de valeur que ses possessions, plus de valeur que sa réputation. C'est important, la réputation pour une personne, hein? Mais le Seigneur Jésus-Christ vient qui a plus de valeur que ma propre réputation, plus de valeur que mes désirs. Bref, il n'y a rien qui arrive au même niveau que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui voulaient le suivre, le Seigneur a spécifié une chose très importante. On l'a lu tantôt, là, dans Matthieu chapitre 10. Là, je vous invite à aller au verset 35. Le Seigneur dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Comme on a lu tantôt, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors, ça, on a déjà vu ça. Hein? Certains de ceux qui ont voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ ont dû affronter la haine des membres de leur propre famille. C'est qu'on a vu ça, c'est qu'on a connu ça même. Mais Jésus, ici, il n'est pas en train d'encourager la désobéissance aux parents ou même d'encourager des conflits dans une maison. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus-Christ veut souligner. Le Seigneur est en train de démontrer que sa présence, ça va demander une décision. En acceptant Seigneur Jésus-Christ, qui est une décision capitale, vous risquez de faire du brouhaha au sein de ceux qui vous entourent, au sein de ceux qui vous aiment, au sein de votre famille. La présence du Seigneur Jésus-Christ dans une vie demande une décision. Certains vont le suivre, d'autres pas. Mais inévitablement, ça va créer de la brouille dans des familles. Moi, j'ai connu des couples où un des deux s'est converti, l'autre pas capable. Il l'a laissé là. Imaginez-vous le privilège, lorsque vous êtes venu au Seigneur, d'avoir un conjoint qui connaît le Seigneur aussi. Nous autres, moi, j'ai été choyé. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai rencontré des gens qui avaient connu le Seigneur aussi. J'ai rencontré Suzanne qui s'était convertie avant moi. Alors, lorsqu'on s'est mariés, les deux, on était au Seigneur. Il n'y a pas eu de brouille, là. On avait la même pensée, on avait le même esprit, on a grandi ensemble, puis le Seigneur est capable de me bénir. Mais lorsque ce n'est pas le cas, des fois, c'est difficile. Il faut prier dans ces situations-là. Je vous avais déjà parlé une fois, il y avait une madame à Chicoutimi qui parlait constamment à son père, puis qui lui disait, son père était assez âgé, puis elle lui disait, « Papa, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir, parce que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés, puis elle l'évangélisait. » Ses frères puis ses sœurs à elle n'arrêtaient pas de dire, « Veux-tu taire, toi? Tu vas le faire mourir avec tes affaires. » Alors, elle avait comme réaction, « Mais il va mourir pareil. Il va mourir pareil. » Comment? Le son? OK, moi ça, je ne suis pas au courant du son. OK. Alors, ce n'est pas compliqué. Le Seigneur doit avoir la priorité dans une vie. Je vous ai cité tantôt Luc 9, 23, mais Matthieu et Marc ont écrit exactement la même chose pour ceux qui voulaient suivre le Seigneur Jésus. Entre autres, le renoncement, ça implique l'abandon de mes droits pour reconnaître ceux du Seigneur. Reconnaître sa royauté, sa majesté dans tous les aspects de ma vie. Le chrétien, c'est comme ça qu'il marche. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et la majesté dans toutes les sphères de sa vie. Toutes! Pas juste, ce bout-là, je le garde pour moi, je mets ça dans une boîte. Ça, Seigneur, j'aimerais que tu n'ailles pas là. C'est pas comme ça que ça marche. Si Jésus-Christ est devenu mon trésor ou ma perle de grand prix, j'ai jeté le reste pour me tourner vers lui. Il est devenu ce qui avait le plus de valeur pour moi aujourd'hui. Je mets beaucoup d'emphase sur ça. Hein? Là, vous allez me dire, tu radotes, tu répètes, mais c'est ça quand même. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a pris place dans une vie, il devrait rester là et être constamment le sujet de mes réflexions, de mon adoration. Il devrait être celui qui a la première place. C'est pas compliqué, là. Le Seigneur Jésus-Christ, puis les apôtres, puis Paul, tout le long de ses voyages missionnaires, il répétait les mêmes affaires. Alors, mon désir devrait être de le connaître, de l'aimer, de le servir, de lui obéir et de lui ressembler. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous aujourd'hui? Que ça fasse 10, 20, 30, 40 ans que vous le connaissez. C'est toujours ça qui est prioritaire pour vous aujourd'hui. Connaître le Seigneur, l'aimer, le servir, lui obéir et lui ressembler. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est en compétition avec lui. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu que dans une vie chrétienne, il y ait quelque chose qui est en compétition avec mon Seigneur et mon Sauveur?
Oui.
Je pense que oui. Malheureusement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde-là qui me captive plus que lui? Est-ce que j'ai autant le désir de le connaître qu'au début de ma vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ? Paul disait qu'il regardait toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, pour lequel il avait renoncé à tout, puis comme il disait, il les regarde comme de la boue. Pourquoi il a renoncé à tout? Pour acquérir, on lit ça au verset 8, pour acquérir la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. C'est juste des petits mots, ça, là, mais ça veut tout dire, là. Pour lui, il a tout abandonné pour acquérir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, l'acquisition de cette connaissance-là est ralentie par un paquet de choses. Paul, ici, il n'est pas en train de parler d'une connaissance intellectuelle avec que la tête, là. Parce que ça, il y en a beaucoup qui l'ont. Il y a beaucoup qui ont une connaissance intellectuelle de Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ. Paul n'est pas en train de parler de ça ici. Le verbe grec que Paul a utilisé veut dire une connaissance personnelle, une connaissance par expérience. Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ? Mieux connaître Jésus, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a rien de magique là-dedans. Si on veut le connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du temps avec lui. Et c'est là tout le problème. On n'a plus de temps. Ou on ne le prend pas, ou on l'investit ailleurs. Juste comparativement, Combien de temps par semaine est-ce que je passe devant une télévision comparativement au temps où ce que j'ouvre des livres, parce qu'on devrait avoir des livres bibliques, des dictionnaires, des concordances, puis des commentaires, puis étudier un petit peu, étudier ce que la parole de Dieu dit pour découvrir les pensées de notre Seigneur, savoir ce qu'il veut, ce qu'il dit. Vive l'expérience que si je marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, il va être là. Parlez de ça, voir avec Doris. Nous autres, la dernière visite qu'on est allé chez eux, elle a jasé sur un moyen temps. Et nous, ça nous a encouragés. Elle nous expliquait qu'écoutez, après avoir vécu ce qu'elle a vécu, elle perd l'homme qu'elle aime depuis au-dessus de 60 ans. Puis Luc, c'était un bon bonhomme, hein? C'était un bon mari. Elle l'a perdu. Ensuite, à cause des événements et des circonstances, elle perd sa maison. Bref, elle a tout perdu. La chose qu'elle a dit, Seigneur, elle a dit, ce qu'elle a dit, oh, Seigneur, elle a dit, Seigneur, je ne veux pas perdre la tête. Parce qu'elle était inquiète, elle, sa mère avait déjà fait une sérieuse dépression, puis tout ça. Elle ne voulait pas passer par là. Mais le Seigneur, il l'a gardée. Et maintenant, sans Luc, sans sa maison, c'est sûr qu'elle s'ennuie, puis c'est un être humain, là, mais elle demeure accrochée au Seigneur Jésus-Christ. Elle a vécu l'expérience que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est effectivement avec elle. Est-ce qu'on a vécu ça, nous autres? Là, c'est des questions que je vous pose personnellement. Mais elle, là, c'est qu'elle a passé à travers. Alors, si on se contente de peu, on a peu. Faites pas d'efforts, n'étudiez pas, passez pas de temps dans les Écritures. Vous allez rester sauvés, là. Mais le zèle que le Seigneur veut qu'on aille, il va être où? Vous allez chercher où? Vous allez l'avoir où? Comment? Il ne sera pas là. Puis même le danger, c'est qu'il risque de diminuer. Là, je ne suis pas en train de mettre en doute votre salut, mais de mettre en doute, la raison pour laquelle on est sauvé, ça devrait être pour apprendre à grandir et à mieux connaître celui qui nous a aimés. Si dans ma vie, je constate que mon attachement, la connaissance de mon Sauveur, le désir de l'apprécier s'en va en pouit, en diminuant, ben je dois me poser la question à savoir, est-ce que j'ai compromis ma relation avec lui pour échouer dans les affaires du monde? John MacArthur, lui, disait « dans les ordures du monde ». Ce même MacArthur-là est décédé cet été. Le 14 juillet 2025, il avait 86 ans. Pendant plus de 56 ans, il a prêché à Grace Community Church avec une fidélité exceptionnelle. Il prêchait 5 fois par semaine, puis son enseignement ne laissait jamais de place au compromis en faisant des accords ou des concessions. C'est pour cette raison, probablement, que John MacArthur a été un des prédicateurs les plus respectés aux États-Unis puis dans le monde entier. Tout le monde connaît John MacArthur et tout le monde va vous dire que c'est un homme intègre et droit qui n'a jamais dérogé de l'enseignement de la parole de Dieu. Il a suivi à la lettre les recommandations de Paul à Timothée dans 2 Timothée 4, 2, où ce que Paul disait à Timothée, « Prêche la parole », c'est-à-dire la parole de Dieu écrite tout entière, de Genèse à Apocalypse. Mais MacArthur a fait toute la Bible, pas juste une fois. Il l'a passé d'un couvercle à l'autre, il l'a expliqué verset après verset, avec fidélité. Je ne suis pas en train de vous dire gloire à John MacArthur. Je suis en train de vous dire que c'était un homme fidèle. Et c'est ce qu'on est appelé à être tout le monde. prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, qu'elle soit bien reçue ou mal reçue. Continue, toi. Insiste en toute occasion, c'est ça. Alors, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Ça, c'est la face négative de la prédication. Reprendre des gens, les gens n'aiment pas ça, se faire reprendre. Mais ça fait partie de l'angle de la prédication. À l'occasion, il faut reprendre. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, c'est la face positive de la prédication. Mais d'une façon ou l'autre, prêche la parole. Et c'est ce que notre frère avait fait. Si on ne fait pas attention pour protéger puis préserver le trésor de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, la ferveur des premiers jours ou le débordement de sa présence, ce qui nous habitait lorsqu'on venait de venir au Seigneur, bien, ça va tranquillement se transformer en indifférence ou en satisfaction de moi-même. Ma relation peut devenir une religion. Et aussi bizarre que ça a l'air, lorsqu'on s'est converti, on a dit « J'abandonne une religion pour rentrer dans une relation. » Comment ça qu'avec les années, cette relation-là peut redevenir une religion? Probablement à cause des compromis qu'on a laissés entrer. Des abandons, des principes bibliques, ce qui fait en sorte que je ramollis. Puis je suis moins zélé. C'est peut-être l'explication, ça. Alors, c'est justement le danger de faire des compromis. Exactement ce que le Seigneur a reproché à l'Église d'Éphèse. Puis ce que le Seigneur reprochait à une Église, à des chrétiens, mettons, assez matures, d'une quarantaine d'années, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouf! Quelque chose, ça. Seigneur qui dit ça. Tu as abandonné ton premier amour. Quand on parle d'abandon, on ne parle pas d'un geste accidentel. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de même par accident. On n'abandonne pas accidentellement. C'est un geste intentionnel qui prend place petit à petit, tranquillement, mais qui laisse des traces profondes vis-à-vis l'amour et le zèle qu'on a pour notre Seigneur. On dit souvent le diable est dans les détails, hein? Mais c'est dans les détails souvent que le Seigneur, que le diable il va s'infiltrer pour justement faire en sorte que oh ben ça c'est pas si grave que ça, c'est pas si important que ça. Être fidèle aux Écritures, il y a des affaires qu'on peut écouter, c'est charrier un peu là. Il y a des églises évangéliques maintenant qui ont décidé de dire qu'il y a des affaires bibliques de base qui ne valent plus que la peine. Il y a des églises évangéliques qui ne prononcent même plus le mot péché. Pourquoi? Bien, ça va éloigner le monde. Y a-t-il quelque chose d'assez clair dans les Écritures que c'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est venu mourir? Mais merci Seigneur, Dieu nous a donné dans sa parole tout ce qu'on a besoin pour combattre cette tendance-là à laisser aller. À la conversion, le croyant il a échangé, comme je vous disais tantôt, ses déchets pour Christ. Une perte pour un gain. Il a reçu une nouvelle vie. Il a une nouvelle relation. Et il est devenu une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, vous savez tout ce que ça dit, ce verset-là? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il n'a pas seulement reçu une chose nouvelle, il est devenu une personne nouvelle. Cette nouvelle nature-là n'a pas été rajoutée à l'ancienne, elle la remplace. un échange s'est produit. L'ancien désir pour le mal a fait place à l'amour pour le bien. Le mal est censé être quelque chose qui ne nous contrôle plus. Le salut, ça ressemble à ça. Le problème avec le croyant qui fait des compromis ou des concessions avec les principes bibliques, savez-vous ce que c'est? C'est que il change le gain pour une perte. Faire des compromis avec les principes bibliques, c'est d'échanger ce qui avait de la valeur pour de la merde. Vous avez été cru, là? Mais c'est ça pareil. Quitter une maison confortable et bien chauffée pour aller vivre dans une tente en hiver. Échanger une voiture flambant neuve pour une bagnole qui ne part pas en hiver. C'est complètement illogique. Ça ne fait aucun sens. Mais quand on fait des compromis, c'est exactement ça qu'on fait. Et le résultat des compromis fait en sorte que le zèle suit. On abandonne quelque chose. On laisse aller quelque chose. Une nature transformée implique un comportement transformé. Paul disait aux Éphésiens, puis ça décrit un petit peu notre mode de vie d'aujourd'hui, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, 17, Paul y dit, « Voici ce que je vous dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Alors, les Éphésiens, tout comme les chrétiens d'aujourd'hui, on est entourés d'un paquet de philosophies, de religions, d'immoralités. Et alors, Paul écrit aux chrétiens de ce temps-là, puis il écrit aussi, je pense, à ceux d'aujourd'hui qui sont retombés dans cette déchéance-là, au verset 20 et Éphésiens 4. Il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Là, il fait une différence directe, il fait une référence, c'est-à-dire directe au salut. Si j'ai fait une profession de foi en Christ, j'ai plus rien à faire avec le monde. Ni par participation, ni par association, j'ai plus rien à faire avec le monde. Aucun compromis à faire avec lui. Et c'est tellement important que dans Jean 17, le Seigneur, il fait une prière d'intercession pour les siens. Regardez ce qu'on lit dans Jean 17. Jean 17, le verset 11. Jean 17, 11, le Seigneur, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. » Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Une chance que le Seigneur a prié dans un sens-là. Hein. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est mis à part en prenant sa place hors du monde. Quelqu'un a déjà dit que la sanctification du Seigneur Jésus-Christ est le modèle et la puissance de la nôtre, de notre sanctification. On devrait être mis à part du monde et trouver notre part avec lui. Jacques 4,4, vous connaissez ce passage-là, il dit « L'amour du monde est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire en aversion, en horreur, en éloignement, en répulsion. L'amour du monde ne fonctionne pas dans le cœur d'un chrétien. Les deux sont incompatibles. Puis le but même de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être sauvé de nos péchés, mais du même coup, être sauvé d'une génération perverse. C'est ça que Pierre avait dit lors de son discours le jour de la Pentecôte dans Actes 2:20. Il a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pensez-vous que ça a changé en 2025? Non. Exactement pareil. Si on veut avoir les deux pieds plantés dans le monde, il y a un prix à payer pour ça. Alors, en conclusion, rappelons-nous ce qu'on a vu au début. Si je réalise que le zèle d'auparavant a diminué, ou peut-être même malheureusement disparu, mettons pas ça sur le dos de l'âge. Ça, c'est un petit peu trop facile. MacArthur était toujours aussi zélé à 86 ans, malgré certains problèmes de santé. Mais posons-nous sérieusement la question, à savoir, est-ce que j'ai fait des compromis qui m'ont amené à échanger mes gains pour une perte? Alors, j'avais ça à cœur, qu'on puisse vraiment interroger le Seigneur pour qu'il puisse nous montrer, « Seigneur, aide-moi dans ma réflexion pour voir est-ce que j'ai agi comme ça. » Parce qu'après une quarantaine d'années, ou peu importe le temps, c'est pas normal qu'un zèle qu'on avait tout feu, tout flamme au début, c'est pas normal que ça diminue. C'est pas normal. Il s'est passé quelque chose, on a ouvert une porte, on a laissé entrer des souris et des rats, puis là, on a perdu le contrôle. Mais ce n'est pas normal. Prions. Oui, notre Dieu et Père, encore une fois, on est tellement heureux de pouvoir sonder les Écritures pour découvrir ce que tu attends de nous. Et on veut te prier, Seigneur, afin que tu nous aides sérieusement à avoir une réflexion qui soit sérieuse et qui soit réelle pour que tu nous montres clairement là où nous avons échoué, pour que tu puisses toi-même que nous relever. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen.